France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. Un film qui a bouleversé sa vie et révolutionné l'histoire du cinéma. Le réalisateur a alors 35 ans, un court et un documentaire à son actif, et un premier long de fiction, Si j'étais un espion. Le 20 mars 1974, Les Valseuses, deuxième long métrage de Bertrand Blier, sort en salle. Adaptation de son roman qu'il a publié 2 ans plus tôt. La critique grince parfois des dents, mais le film est un très grand succès. Voilà pourquoi, en choisissant de revenir aux sources du 7e art pour cette collection de 10 films qui ont changé le monde, nous voulions revoir avec vous l'histoire de ces deux voyous en cavale qui vivent au jour le jour, agressent, transgressent, provoquent et chanquent la France pompidolienne. Ils mettent en scène un duo de cinéma, un tandem de choc, Gérard Depardieu et Patrick Devers, un trio mythique avec Miu Miu. À Serge Kaganski de Transfuge, le Bertrand Blier de 82 ans a dit récemment « Je cherchais à réveiller un peu l'ambiance générale. Je venais de découvrir Kubrick, Orange Mécanique et Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci. Il y avait comme ça quelques films importants, talentueux et provocateurs, et je me suis engouffrée là-dedans pour donner un tour de vie supplémentaire et choquer encore plus. » Alors pourquoi Les Valseuses ? Ce film a-t-il changé une génération de spectateurs ? Comment a-t-il libéré les mœurs, éventuellement nos regards ? Film misogyne ou film féministe ? Pourquoi est-il en tout cas inséparable de son époque ? On est ensemble pour une heure de discussion débridée, libérée, qui ne pouvait commencer que comme ça, sur quelques notes légères du jazzman Stéphane Grappelli et la voix de Bertrand Blier, auteur, réalisateur.
Je me souviens, Les Valseuses, les 20 premières pages des Valseuses, je les avoir tapées à ce moment-là, je tapais à la machine directe, à l'américaine, et je tapais les 20 premières pages d'un coup, sans aucune idée de rien. Comment ils volent la voiture, comment ils se font piquer par le coiffeur et tout ça. Et puis après, j'avais 20 pages tapées. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Alors je suis allé à la Série Noire, qui était à l'époque dirigée par M. Soula, qui m'a reçu très gentiment et qui m'a dit, bah, allez-y, allez-y. Alors bon, j'étais parti pour faire une Série Noire. Donc en 2-3 mois, quoi, je me disais, tant qu'à faire un scénario, ça fait 180 pages, je vais bien arriver à en faire 250. Puis, au bout de 3 mois, j'étais au second chapitre, quoi, donc ça m'a pris 1 an. Mais c'était parce que je cherchais ce qui se passait avec ces personnages. Donc, il y a quand même une sincérité absolue, quoi, là-dedans. Puisque ce que j'aime bien, c'est d'être surpris. Alors là, j'ai été surpris, quoi. Puisque d'abord, je pensais que j'allais faire une chose extrêmement modeste, courte, rapide, et finalement, ça m'a entraîné un bouquin de 450 pages. Et qui a bouleversé ma vie, quoi. Mais je le savais pas.
Et aussi, ils cherchent qui ils sont et où ils vont. Le duo culte de ce film, Depardieu, Devers, Jean-Claude et Pierrot, les deux sales gosses du premier grand succès de Bertrand Blier. On regarde tout de suite un extrait du film. Avant d'en parler, on regarde parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin de l'image.
Et maintenant, où on va ? Aucune idée.
Bah si on sait pas où on va, on pourrait peut-être s'arrêter un petit moment. On arrivera toujours assez tôt.
S'arrêter ? Pourquoi faire ?
L'amour.
Oui, ben mon petit canard, figure-toi que c'est pas tellement le moment. Hein ? Pour moi, il y a 4 trucs qui comptent. Tailler la route. Oubliez cette odeur de cadavre.
Je vous en supplie, baisez-moi. Faut que je sache.
Sois pas vache. Tu sais bien qu'elle a un problème de ce côté-là. Bon bah vas-y, je te préviens, je m'arrête pas. T'as qu'à te démerder pour faire ça derrière.
Mmh.
pas besoin d'images. Qu'on ait vu ou pas le film, on voit tout ce qui se passe dans cette situation, on l'entend aussi, puis on reconnaît ces voix qui, depuis maintenant une quarantaine d'années, nous bercent, à la fois celle de Gérard Depardieu, celle de Miu Miu, et puis celle de Patrick Devers. Trois regards de cinéphiles sur ce film, aujourd'hui, avec nous. La réalisatrice Valérie Donzelli, réalisatrice de L'amour et les forêts, mais encore de La guerre est déclarée, ou encore de La reine des pommes, et d'une série réalisée pour Arte, Nona et ses filles. Bonjour Valérie Donzelli.
Bonjour.
Bonjour, à vos côtés, Jérôme Ouibon, réalisateur de documentaires sur le cinéma, directeur de la collection Nos années 70 chez Studio Canal, où vous introduisez chaque film. Est-ce que dans cette collection, bonjour Jérôme,
bonjour,
est-ce qu'il figure Les Valseuses, ou est-ce que vous lui avez, je crois, préféré Calmos, non, sorti 2 ans après en 76?
Oui, Calmos, ouais. Autre film un peu compliqué de la carrière de Bertrand Blier.
Le choix était compliqué entre les deux?
Non. Très, très envie de remettre en lumière Calmos.
Moins connu que Les Valseuses.
Moins connu et avec un duo incroyable, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle.
À vos côtés, Muriel Joudet, bonjour.
Bonjour.
Critique de cinéma, auteur de La seconde femme, ce que les actrices font à la vieillesse chez Premier Parallèle, et aussi d'un livre sur Isabelle Huppert dont on reparlera parce qu'elle figure aussi au générique de ce film, Les Valseuses. C'est même un de ses tout premiers films, voire le premier.
Un de ses tout premiers.
Un de ses tout premiers. Bonjour à tous les trois en tout cas. Pourquoi ce titre, Les Valseuses? À quoi fait-il référence? Que signifie-t-il ce titre?
Mais c'est testicule, non? Les Valseuses,
ouais.
Non, c'est pas ça?
C'est très bien.
Moi, je me suis dit que c'était ça. C'est des testicules.
C'est probablement ça.
Je crois que c'est ça. Moi, pendant longtemps, je pense que je n'ai pas cherché à savoir et il y avait un côté un peu abstrait qui me plaisait bien.
Alors, je crois qu'il y a Bertrand...
C'est de l'argot, je crois.
Ouais, et puis il y a Bertrand Blier qui avait cette citation à l'époque, c'est qu'il voulait mettre la main au paquet à la France et serrer fort. Donc, je pense que voilà, il y a ce lien-là qui
très
joue.
Imagé.
Le film est très, très imagé, oui, hein, de toute façon. On y va dès les titres. Mmh. Exactement. Donc, la valse aussi se danse à deux. Hein, et en fait, ce duo marche bien avec ce titre, les valseuses. Je crois qu'il y a un moment, d'ailleurs, quand ils sont sur le vélo, Depardieu, le personnage Jean-Claude, joué, incarné par Depardieu, dit à son complice, à son compère, si tu n'arrives pas à pédaler, tu peux y aller en valseuse.
Non, danseuse.
Peut-être que c'est en danseuse.
Oui,
voilà, c'est
le vélo.
Moi qui l'ai imaginé. Je crois que Pierrot dit en vélo, j'ai mal aux valseuses.
Oui, parce que ça fait mal aux testicules.
Eh ben oui, ça, la selle, c'est comme ça.
Il faut être équipé près du vélo.
Bref, avançons. La valse danse à deux, mais c'est aussi une référence à ce que les hommes ont à l'entrejambe. En effet, vous le disiez, Valérie Donzelli, j'en ai deux comme papa, entendait-on souvent à l'époque. Le film dure 1h55, en couleur, évidemment. Synopsis, quelqu'un se lance? Muriel,
je déteste les synopsis.
Ah bah, on a avec nous une réalisatrice. Valérie Donzelli.
Synopsis des valseuses. Oh là là. le chemin sinueux de deux enfants égarés, j'ai envie de dire.
Et leur rapport un peu.
Et puis le rapport à une France très. Très de droite, quoi. Enfin, quand même.
Qui leur laisse pas beaucoup de place.
Oui, qui leur laisse pas de place. C'est de mal aimer qui cherche l'amour aussi. Enfin, on pourrait dire plein de choses, en fait, sur ce film.
Cherche à comprendre ce qu'est l'amour.
Hein. Oui, peut-être à le comprendre aussi.
Ouais.
À le comprendre. Alors, parce qu'ils ne l'ont pas eu, surtout. Parce qu'on a des bribes de choses dans le film. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout ne nous est pas donné tout de suite. On ne sait pas qui ils sont. Ça démarre sur ce générique très coloré, avec cette musique très, très douce, très joyeuse. Et puis, bing, le film démarre. Ils arrivent dans leur caddie, là. Et on les voit comme ça, errant dans une cité déserte, cherchant la connerie à faire. Enfin, c'est assez... j'adore le début du film, quoi.
Oui, embêtant, taquinant, plus que sérieusement.
Oui, et cette femme qui s'est acheté ses petits gâteaux. Oui,
ouais, ouais. Bien sûr. La musique est de Stéphane Grappelli, ça aurait dû être Gainsbourg, ouais. Mais il n'avait pas aimé le film, a raconté Blier au moment où il lui a fait la projection. Stéphane Grappelli signe quand même une bande originale pour ce film, assez incroyable, hein, qui fait autant le film, non?
C'est léger, quoi. Enfin, vraiment, il y a ça. Je pense que ça.
Ça contraste. Hein.
J'ai l'impression que oui, ça ajoute toute la joie qu'il n'y a pas dans les images, en fait, bizarrement. Parce qu'elle n'est pas là, la joie. Donc pour moi, c'est ça. Ça emporte la joie.
Oui, je pense. Et je pense qu'il y a aussi une façon, avec cette musique, de consolider le film. C'est comme une bandelette aussi qui nous réconforte. Il y a quelque chose de. Parce que le film marche sur des ellipses, c'est un petit peu la même situation qui se répète tout le temps, etc. Et d'un coup, la musique nous lui donne une espèce de corset doux, de. Ouais, est magnifique cette musique.
Oui, ça pourrait presque être la bande originale de la France, des premiers congés, hein, des vacances aussi. On est sur quelque chose d'effectivement extrêmement léger. On a l'impression qu'on part en voyage dans.
Ouais, mais je trouve qu'elle
cette France qui va.
Elle a vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement réparateur.
Elle donne de l'optimisme.
Ouais, elle donne de l'optimisme. Elle est pas ironique, elle est très premier degré, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors que le film joue sur quelque chose d'un petit peu provocateur tout le temps, on est toujours dans une zone d'inconfort, etc. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que la musique, c'est comme une signature qui nous dit aussi la douceur de Blier. C'est pas juste un film violent. Mmh. C'est plus que ça.
Des dialogues extrêmement ciselés, ce qui rend peut-être encore plus saillante ou marquante parfois la vulgarité de certaines répliques, des mots crus, des scènes de nus, des paires de seins, un va-et-vient de fesses. À sa sortie, le film est interdit au moins de 18 ans. L'est-il, le serait-il encore aujourd'hui ? Muriel Joudet, on vous a pas encore entendu très peu.
Ah, je pense pas. Après, est-ce qu'il serait possible de le réaliser ? C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est tellement un film qui se fait... contre le cinéma français, qui se fait, il y a un côté APAC, c'est-à-dire quelque chose qui surgit comme ça et qui se fait contre toutes les règles de financement du cinéma français. Par ailleurs, je pense pas qu'il serait interdit au moins de 18 ans, mais qu'en même temps, c'est un film. Moi, je pour montrer des films à des lycéens, je vois comment ils ne voient plus de nudité, plus de sexe au cinéma. Et donc, le moindre poil, le moindre téton, c'est, on sent que il y a un retour de pruderie précisément parce qu'il y a plus de sexe au cinéma. Et donc, évidemment, devant ce film, je serais extrêmement gênée si je devais le montrer à des mineurs ou même des lycéens.
Oui, mais c'est peut-être exactement pour ça que Bertrand Blier le referait aujourd'hui. C'est ce qu'il disait dans cette interview à Transfuge qui date d'il y a 2 ans. Hein.
Oui, oui.
Pour lui, ce film serait faisable et réalisable aujourd'hui. Moi, j'en suis pas si sûre.
Déjà, le film est interdit au moins de 18 ans à l'époque, mais il a failli aussi être interdit totalement. Enfin, Blier en parlait. Et donc,
mais il n'a pas été censuré.
Il n'a pas été censuré. Il est sorti, mais parce que la décennie est une décennie folle. On peut faire plein de choses. L'année d'avant, il y a eu quand même la grande bouffe. Hein, donc, on peut se permettre des choses. Comme disait Blier, c'est autant il a de la facilité à avoir des contacts avec des comédiens aujourd'hui qui veulent travailler avec lui. Par contre, il a pas de contact avec des producteurs. Donc, c'est très compliqué pour lui de monter des nouveaux projets. Mmh.
Bah oui, parce que c'est pas la même époque du tout d'un point de vue de la production. Les producteurs sont pas du tout les mêmes que ceux qui produisaient les films de Blier.
Il y avait pas la télé en 74 qui produisait les films, qui coproduisait les
films. Oui, donc c'était vraiment des risques. Enfin, je pense que les producteurs étaient des passionnés, des gens qui croyaient en plus fort que tout dans le film. C'était des aventures humaines, quoi. Aujourd'hui, ça peut le rester aussi. Moi, je l'ai vécu avec Édouard Veil et La Guerre est déclarée. On a vraiment vécu cette aventure humaine puisqu'on a fait le film avec 3 fois rien. Et il m'a dit, vas-y, tu veux tourner quand, machin. Mais il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ont cette envergure-là. En revanche, moi, j'ai l'impression quand même on n'est quand même pas sous la censure, quoi. Je pense qu'on pourrait faire un film comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression...
Sous l'autocensure, même pas en fait, l'autocensure plutôt
oui,
que la
c'est
censure,
ça.
Je suis d'accord.
Oui, c'est ça, on pourrait, on a le droit de filmer des culs, ouais. des seins, enfin je veux dire, c'est pas interdit en France de faire ça, faut arrêter.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'être provocateur, comme Blier disait lui-même qu'il voulait l'être à ce moment-là.
Oui, mais je pense que...
Et donc accepter ce qu'on va avoir en retour.
Oui, mais je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut le faire encore aujourd'hui, mais peut-être pas forcément en étant provocateur, peut-être en ayant quelque chose à raconter aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est que le film, c'est ça que je trouve assez beau, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas de zone d'inconfort. C'est-à-dire que le film, on sent qu'il y a le cadre du travail qui est là. Et que pour réussir à jouer ça, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas dans un truc malaisant. Je suis pas sûre que ce soit un film où il y a eu des mauvais débordements, des choses horribles comme on peut entendre aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve important de dire. C'est que tout ça est possible quand il y a le cadre du cinéma et du travail, en fait.
Alors, on va en reparler, on va essayer de comprendre quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Les Valseuses, ben de quoi ça parle. Blier, il met donc en scène dans ce film deux losers, pas si magnifiques que ça hein, d'ailleurs, deux pieds nickelés salaces, comme il le dira. Portrait psychologique de ces deux personnages par l'auteur-réalisateur au micro de Jacques Chancel à l'époque.
Enfin, vos personnages dans Les Valseuses violent, volent, se battent... Et vous ne leur ressemblez pas.
Mais ils font tout ça, mais pour se défendre, quand on les laisse tranquilles, ils sont amoureux, ils aiment les femmes, ils aiment bien manger.
Les femmes ont une importance.
Oui, mais ils les aiment bien profondément, ils sont... et pas pour de mauvaises raisons. Et ils aiment bien être sous des ombrages agréables avec une canette de bière et des cochonailles. Ils sont...
Sous le masque des voyous, et on en revient à la vie courante, il y a quand même un beau désespoir.
Oui, un désespoir, pas total, mais assez important.
Mais vous pensez que chez eux, la fureur de mourir a remplacé la rage de vivre ?
Mais je crois que la rage de vivre est telle que ça leur permet de vivre beaucoup plus vite. D'où cette possibilité de mourir très jeune, presque heureux.
Enfin, les terreurs de banlieue sont quand même des lâches.
Ah oui, mais mes personnages sont très trouillards.
Vous êtes trouillard?
Ils sont trouillards et feignants. Ah oui, moi je suis très trouillard. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point je ne pourrais pas devenir un héros. Pourquoi pas? Mais l'occasion ne s'en est pas présentée.
Enfin, dans votre livre, il y a du défi, il y a du dépit, mais il y a surtout beaucoup d'appétit.
Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est une forme de rage de vivre, si on veut. C'est une soif. Et c'est un besoin de vitesse, c'est un besoin de ne pas perdre de temps, de ne pas se disperser, de ne pas se gâcher. Et dans la mesure où, justement, on peut vivre comme mes personnages toute une existence en 6 mois ou en 3 mois, pourquoi ne pas mourir gentiment sans faire d'histoire ?
Un road movie, Les Valseuses, une fuite en avant, telle que l'a décrit aussi hein, Bertrand Blier, qui ne peut que mal finir, même si le film reste ouvert hein, sur la fin. On sent qu'ils ne vont pas réussir à s'en sortir éternellement, hein, Muriel Joudet.
Oui, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point le road movie n'est pas du très peu un genre français, et qu'à chaque fois qu'en France, on fait un road movie, c'est vrai qu'il y a la volonté à la fois de dynamiter ce que pourrait être un scénario linéaire, mais c'est d'ouvrir l'horizon, d'ouvrir l'espace, et qu'à chaque fois, c'est aussi de créer des mouvements aberrants, de faire rentrer le hasard, de faire rentrer la vie, et qu'en même temps, il y a toujours quelque chose de désespéré dans le road movie à la française. Alors, je pense à un film qui est sorti juste avant, je crois, c'est Le Plein de Super de Cavalier, qui fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire, en fait, c'est une réunion non mixte entre mecs, quoi, et qui prennent la route comme ça, par soif de liberté, parce qu'ils en ont marre de leur gonzesse, entre guillemets, parce que, voilà, c'est un terme très de l'époque, mais qui se rendent compte que cette liberté retrouvée, ce côté entre mecs finit toujours cette liberté finalement elle est lourde et elle est difficile, et c'est des films qui vont nulle part, alors que le road movie devrait normalement va d'un point A à un point B. Là c'est des chemins qui ne mènent nulle part à chaque fois.
Alors il y a quand même dans ce film, et c'est une de ses forces, c'est ce duo de cinéma, Gérard Depardieu et Patrick Devers, deux jeunes acteurs à l'époque, je ne sais pas s'ils ont 25 ans réellement comme dans les personnages du film, mais c'est en tout cas un coup de maître hein, de les avoir assemblés. Où est-ce que Blier va les chercher, Jérôme Huibon?
Gérard Depardieu, c'est quelqu'un qui a déjà fait pas mal de théâtre et qui passe aussi au Café de la Gare. Il va croiser Devers et Miu Miu, mais il va pas. Ça, c'est pas un des piliers du Café de la Gare. Et le père de Bertrand Blier, Bernard Blier, avait joué avec Gérard Depardieu. Donc, conseille son fils, écoute, cherche pas, prends Depardieu, il est parfait, c'est le grand comédien en devenir. Et en fait, Blier est pas sûr, et Depardieu vient tous les jours à la prod. Et en fait, il n'est pas très convaincu. Coluche va faire des essais, par exemple, et Devers. Et là, l'alchimie va prendre, en fait. Et Miu Miu, par contre, dès le départ, il sait qu'il veut Miu Miu, Bertrand Blier. Il l'a vu au Café de la Gare, et il est sûr et certain que c'est elle qui sera le personnage.
Coluche à la place de Depardieu, on aurait pu avoir pour les Valseuses.
Ouais, ils ont fait un essai dans une scène de lit, et en fait, ça ne marchait pas du tout. Alors, Depardieu et Coluche avec Miu Miu au milieu, c'était un peu chargé.
Ça aurait été un peu les Laurel et Hardy des Valseuses ou du cinéma français.
Ouais, bah, c'est vrai qu'ils sont magnifiques tous les deux. Ils ont deux beautés complètement différentes. Il y en a un qui est complètement dans une forme de féminité avec un petit corps, même s'il est tout poilu, et l'autre qui est une espèce de mastodon comme ça avec sa carrure et tout. Enfin, c'est marrant parce que Gérard Depardieu, il parle très fort dans le film. Tout ce qu'il dit, il le dit comme s'il criait à chaque fois. Donc, c'est marrant par rapport au théâtre, quoi. Peut-être qu'il avait l'habitude de parler fort, plus l'habitude du théâtre que du cinéma.
Et c'est l'année où Depardieu joue aussi dans Vincent, François, Paul et les autres.
Ah oui,
hein, donc, vraiment, est sauté et dithyrambique sur lui, quoi. Donc,
on connaît sa carrière.
Déconner, toujours déconner. Il y en a marre de déconner. T'as qu'à proposer autre chose, toi. Donne-moi du blé, j'aurai des idées. Ah, bouge pas. Qu'est-ce que t'as? Une idée. C'est quoi ton idée? Regarde autour de toi, elle te crève les yeux. Le moteur est encore tiède. Tu vas pas commencer, merde. On est pas bien, là? Hein? Tu descends les coussins d'huile? Sous ton cul? Hydropneumatique, mon petit bonhomme. Oh là 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 là, mais arrête de fouetter comme ça! Tu veux du papier cul? On va y ramener la bagnole au mec. T'en fais pas. Tape exactement là où on l'a pris. Le mec, il aura même pas le tonus de porter plainte.
Pourquoi dans le film font-ils si bien la paire? C'est de la Jean-Claude et Pierrot, incroyablement complémentaire à l'écran, indissociable. Jean-Claude, c'est un peu le cerveau du duo. Et c'est aussi le sauvage, la tête et le corps pensant et agissant du tandem. Mais il est rien en fait. Il est rien sans son sauveur, sans son suiveur, sans son reflet, son ami, incarné par Patrick Devers, donc qui est Pierrot dans le film. On a souvent évoqué l'allure christique dans Les Valseuses de Patrick Devers. C'est surtout marquant dans cette scène où il gît littéralement les pieds dans l'étrier en chaussettes trouées sur le lit gynécologique d'un médecin qu'ils ont pris en otage parce qu'il vient de se prendre la fameuse balle qui a éraflé ses valseuses et éraflé sa cuisse, Muriel Jodet.
Ça, c'est presque une métaphore de crise de la masculinité, mais qui, en fait, les hommes réfléchissent à ce qu'ils sont. Dans le cinéma des années 70, donc j'ai cité Le Plein de Super, La Grande Bouffe, c'est la même chose. Aujourd'hui, si, moi, je rêverais de voir ça au cinéma, c'est-à-dire des hommes qui s'organisent entre eux dans les films pour savoir où ils en sont de leur masculinité. Et il y a aussi cette idée, peut-être, qu'ils se voient en train de s'évaporer progressivement. Il y a une sorte d'obsolescence de l'homme qui se met en place. Et donc, dans Les Valseuses, c'est voilà, cette balle qui est arrivée là où elle est arrivée. Dans Le Plein de Super, c'est un homme qui avoue qu'il est stérile. Il y a aussi dans La Dernière Femme de Marco Ferreri, où je vais spoiler un peu, mais le film se termine avec Depardieu qui se coupe le sexe, le pénis, et qui, pour moi, vraiment, La Dernière Femme est un peu la suite des Valseuses, c'est-à-dire ce désarroi masculin, ces hommes qui se disent mince, les femmes sont en train de s'organiser, elles sont en train de se libérer elles-mêmes, et nous, on sert plus à rien, en fait. Et je sens ça, en fait. Où on va se mettre, on va se foutre, puisqu'il n'y a plus de place pour nous, et que on est là, on fait les coques, mais en fait, on ne sert plus à rien.
Il y a ça aussi dans Calmos, le film suivant de Blier, qui est vraiment sur le questionnement de ces hommes qui prennent le maquis. Alors évidemment, le film est un film de provocation fait pour être prêt pour l'année de la femme. Donc il y a une pure provocation, mais ça questionne évidemment. Ces types-là sont un peu perdus, quoi. Mais il y a beaucoup ça, c'est vrai.
Et leur grand drame, en fait, c'est que ils ne sont pas homosexuels. C'est-à-dire que ils adorent être ensemble, mais ils désirent les femmes. Il y a beaucoup ça chez Blier, c'est-à-dire l'homosocialité. C'est-à-dire, en fait, on rêverait, on aime tellement passer du temps entre hommes que la dernière étape à franchir, c'est finalement d'être homosexuel, mais leur grand drame, leur grande malédiction, c'est d'être hétéro. Et d'ailleurs, je le sens très fort dans le film.
Mais il y a quand même un viol, Depardieu viol.
Ils aimeraient le faire avec le cœur. Je trouve ça très beau chez lui, ce côté mince. On est hétéro et en fait, du coup, on est obligé de parler encore aux femmes alors qu'ils n'ont pas envie, au final.
Puis il y a aussi un truc, je trouve, qui remet en question cette espèce d'injonction des hommes hétérosexuels de leur virilité, leur puissance. Donc là, ça tape dans le mille sur l'idée qu'ils puissent être impuissants, qu'ils puissent ne plus bander, qu'ils puissent ne plus faire jouir les femmes. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ils rencontrent Miu Miu qui ne jouit pas par la pénétration, qui s'en fout complètement et donc ça leur enlève toute fonction.
Si on bande plus, si on fait plus jouer les femmes, on est vraiment plus
est-ce qu'on les fait jouir, en fait. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette scène magnifique avec Jeanne Moreau où, en fait, il désire une femme d'âge mûr qui ne sert pour le coup à rien, entre guillemets, dans le sens où elle sort de prison, elle n'a plus ses règles, elle fait tout un... Donc, on nous dit bien que, voilà, c'est aussi quelqu'un qui ne pourra plus avoir d'enfant, qui pourra... Et il la désire et elle fait l'amour avec eux comme un dernier souffle, quoi.
Quoi ?
Mon pied ! Je l'ai pris !
Tu nous les casses, toi, là ! Ça va te calmer, les butcheuses !
Mais je l'ai pris !
Mon Dieu, de bordel de merde, mais qu'est-ce qui t'a fait ?
Mais rien de spécial.
Que des choses normales ?
Mais oui, je te jure.
C'est pas possible. Il a dû te faire des trucs qu'on connaît pas.
Non.
On connaît tous les trucs.
D'ailleurs, c'est moi qui ai tout fait.
Comment ça ? D'habitude, tu fais rien, toi.
Bah oui, mais... Seulement, là, il pouvait rien faire, il était paralysé.
C'était le trac.
Tu parles. Il tremblait de partout. Il regardait mon corps. Il osait pas me toucher. Il a fallu que je le déshabille moi-même, sinon on y serait encore. Et puis tout d'un coup, c'est parti, tout seul, comme ça, dans mes mains. Il s'excusait, il me demandait pardon.
C'est quand même pas ça qui t'a fait prendre ton pied.
Mais attendez! Alors, je le prends contre moi sur le lit. Je lui dis, pleure si t'en as envie, ça te fera du bien. Alors il se met à pleurer. Mais tout en me faisant l'amour, maladroitement. Et puis là, tout d'un coup, c'est parti. Une deuxième fois. Comme ça, au bout d'une minute.
Tu parles d'une affaire.
Mais attendez! Tu vas voir, c'est au bout du troisième coup que tout a démarré. Je lui demande si je suis sa première femme. Il me répond oui. Et là, il se remet à me faire l'amour. Lentement. En m'embrassant. Et alors là...
Ouais, bon, bah, ok, ça va, on a compris.
Non, mais alors là, je vous assure, sans blague...
Marie-Ange, la champouineuse, pas farouche, disent-ils, abusée, moquée pour sa frigidité inébranlable, rabaissée jusqu'au retournement dans la deuxième partie du film, c'est elle qui les câline, qui les nourrit, qui les conduit et qui va finir la première par le prendre, son pied, justement, hein, comme on l'entendait dans l'extrait. Est-ce qu'elle a le beau rôle ou pas dans ce film? Ou est-ce qu'elle a un rôle rabaissant, dégradant pour vous, Miu Miu, avec ce personnage de Marie-Ange? On va demander votre avis à vous, Jérôme, un point de vue masculin sur ce film.
C'est vrai qu'au départ, le personnage est très derrière, en fait, par rapport aux deux hommes. Et vraiment, elle subit, en fait, vraiment tout, quoi.
Oui, puis une violence. L'action. Tu prends une balle dans la jambe.
Voilà, donc quand ils arrivent à un moment chez elle, elle ouvre la porte, elle dit « j'ai mes règles », donc elle se prend une claque pas possible. Elle est vraiment qu'un objet, en fait. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la scène avec Jeanne Moreau. Quand Jeanne Moreau se tue, après, ils vont se réconforter dans les bras de Miu Miu, et ils pleurent dans ses bras. Et je trouve que là, il y a un changement radical, en fait, qui montre que, en fait, ils sont un peu perdus sans les femmes, même s'ils les comprennent pas encore. Mais avec grâce à Jeanne Moreau, le personnage de Miu Miu existe vraiment, je trouve.
Ils sont tous un peu en errance. C'est-à-dire que Miu Miu, elle est aussi perdue. C'est-à-dire que c'est une champouineuse. Elle n'est en fait que ce qu'on lui a dit qu'elle serait.
Enfin, elle est sans avenir.
Elle vit avec cette espèce de macro qui est son patron atroce, là, qui l'oblige à pas mettre de culotte. Moi, j'adore la scène où ils vont la voir parce qu'il a toujours cette obsession de bander et tout ça, le personnage de Pierrot. Et donc, il retourne chez Miu Miu et elle est en train de repasser. Donc, c'est vraiment la petite femme d'intérieur qui repasse je sais pas quoi d'ailleurs. Et puis, il y a un plan comme ça sur sa jupe avec la fermeture qui est cassée.
Cassée.
Et on voit qu'on a l'impression qu'elle a pas de culotte, en fait. Donc il se dit, elle a pas de culotte, hein, espèce de salope, hein, il l'insulte et tout, et puis il enlève la jupe, et il lui dit que t'as pas de culotte, elle dit oui j'ai pas de culotte, il enlève la jupe et en fait elle a une culotte. Ouais. Et donc elle se fait réinsulter de pas avoir dit la vérité ou je sais pas quoi, mais ça dit quand même quelque chose de cette femme qui en fait n'a eu que cette possibilité, c'est de n'être qu'un objet de désir, de rien en fait, et qui décide... qu'on lui passe dessus et de faire comme une forme de résilience à sa vie qui n'est que, de toute façon, je ne suis bonne qu'à rien. Et en fait, ils vont aussi la réveiller, quoi. C'est beau, cette scène où finalement elle a joui, et si, déjà, c'est quand même magnifique.
Et elle est libre, en fait. Surtout de la deuxième partie du film, il y a cette émancipation du personnage.
Exactement, ouais, elle s'affranchit. Hein, ouais,
complètement.
Coiffure, ouais.
Alors, elle va raconter le tournage, ça n'a pas été simple tous les jours, et notamment, voilà, elle raconte cette obsession culotte pas culotte de Bertrand Blier. On est en 2008, donc il y a 15 ans aujourd'hui.
Mais il y avait par exemple une scène, c'était assez drôle, parce qu'il nous disait, la caméra était cachée dans les blés, puis nous, on devait faire du stop sur la route. Personne n'était censé devoir s'arrêter. Et moi, il m'avait demandé un truc. Vraiment, ça m'énervait. Je devais soulever mon tablier. Donc, je crois que je n'avais pas de culotte en plus, qu'il m'avait dit qu'il ne fallait pas en mettre. Et je trouvais ça vraiment révoltant, quoi. Alors, je le faisais quand même.
Quoi, et puis, vulgaire, enfin.
Je trouve ça tout d'un coup de dire il faut que tu le fasses. Enfin, c'est un abus de pouvoir. Et avec ça, on avait des petites. Et un camion s'est arrêté. On est monté dedans. Et puis, on est parti. Et là, on a juste vu la tête de Blier qui sortait du blé. En nous voyant partir, il a vu ses acteurs s'en aller. Et puis voilà, c'était notre petite vengeance personnelle.
Bah, c'est vrai qu'il allait quand même, il allait loin, hein, Blier, dans les demandes qu'il a pu faire, ouais. Notamment à ses actrices dans le film. Et puis je crois que globalement, le tournage a été quand même particulièrement compliqué. Hein.
Oui, parce qu'il y a quand même une différence d'âge entre Bertrand Blier et son casting. Et lui est un peu plus âgé, il a 7-8 ans de plus qu'eux. Et puis lui, il a la responsabilité d'un film, surtout qu'il n'a pas tourné depuis 67. Et eux vont faire les 400 coups, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire des bagarres dans les bars le soir, ils vont emprunter la déesse pour faire des... Comme dans le film, en fait. Donc, oui, oui. Ils vont arriver sur le tournage un peu déchirés le matin. Donc, ça va être quand même source de conflits. Il y aura des dépassements aussi de budget. C'est pas un très, très bon souvenir pour Bertrand Blier. Même si, évidemment, après, il va retourner avec chacun de ces acteurs-là, nombreuses fois. Donc, mais ça a été très, très dur pour lui. Et je crois qu'il... J'avais lu une interview où il disait qu'à la fin du tournage, il avait l'impression d'avoir raté le film. Et c'est au montage que le film s'est révélé. Donc, voilà, il y a quand même... C'est pas un très très bon souvenir pour lui.
Avec Miu Miu et avec Depardieu et avec Devers, il y a quand même cette idée de rétablir le triangle amoureux aussi dans ce film. Muriel Joudet, 12 ans après, Julie Jim, hein, de Truffaut à peu près. Hein.
Mais avec cette, je continue sur mon idée de l'homosexualité, c'est que souvent, voilà, c'est dans Préparez vos mouchoirs, il y a ça, dans Calmos aussi, il y a ça, c'est-à-dire il y a une femme entre deux hommes et elle est presque là. À la fois, elle est l'obstacle, en même temps, elle fait le lien entre les deux hommes. Puisqu'elles peuvent pas coucher tous les deux ensemble, ils couchent à travers elle ensemble. Je trouve que c'est ça qui sauve aussi le film, c'est que il pourrait être très bassement homophobe et il l'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est très la possibilité d'être homo, de coucher ensemble et tout ça.
Mais là encore, dans une France quand même assez puritaine sur cette question-là notamment,
oui,
de l'homosexualité.
Et le film est extrêmement à l'aise avec ça. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi entre la différence des sexes chez Blier, c'est que les femmes sont très lymphatiques. En fait, il y a presque une carence en énergie, alors qu'il y a trop d'énergie chez les mecs. Mmh. Et ça, je trouve ça très très beau. Préparez vos mouchoirs, ça marche vraiment sur ça. C'est que il y a pas un équilibre des énergies. Les mecs sont des piles électriques. Hein, c'est Depardieu qui est toujours trop dans le plan. Il a trop à faire, il a trop à jouer, il excède toujours le cadre du film. Et Miu Miu, et ça, je trouve ça très juste par rapport à la réalité. C'est-à-dire, en fait, les femmes, elles sont toujours au bord de s'ennuyer, de s'emmerder avec les mecs. Et les mecs, ils sont là, pourquoi tu me regardes pas? Pourquoi tu jouis pas? Je trouve ça très, très juste. Et c'est très rare parce que souvent au cinéma, c'est plutôt l'inverse. C'est inversement traité.
La femme hystérique et l'homme qui...
Voilà, là, c'est tout le contraire. C'est eux qui sont complètement hystériques.
Ouais. Je trouve qu'il résout son questionnement sur l'homosexualité dans Tenue de soirée, finalement. Donc là, le personnage de Miu est exclu, en fait. Et donc, et là, on peut assumer une relation homo. Voilà. Et comme dans Merci la vie, il fera un duo féminin, pour le coup. Et ça sera aussi une
oui,
autre...
Oui, avec le caddie, d'ailleurs, il y a toujours ce...
Ouais, ce caddie, voilà. Et ça...
Valérie, dans Zélie Miu Miu, quand même, juste oui. la figure centrale de votre série, Nona et ses filles, oui. Celle que vous avez imaginée pour Arte, et on la retrouve presque 50 ans plus tard, finalement. Hein, en militante féministe, elle a élevé seule ses triplés de filles dans votre série, elle est devenue responsable de planning familial, elle tombe enceinte à 70 ans. La Marie-Ange des valseuses, elle aurait pu vieillir comme elle, vous pensez? On peut l'imaginer, comme Nona?
Ah, je sais pas.
Et les valseuses, ça a inspiré votre choix?
Oui, enfin Miu Miu surtout, enfin cette femme, parce qu'en fait pour moi Miu Miu ça a toujours été une actrice assez impliquée politiquement. Je me souviens d'elle, on la voyait dans les manifs, elle venait pas au César chercher ses prix, enfin elle avait un côté comme ça un peu libre justement de faire les valseuses, d'être nue. Elle en a fait plein d'autres, des films qui ont marqué.
La femme flic.
Oui, voilà. Il y en a eu plein. Enfin, je veux dire, elle a quand même une carrière assez étonnante, quoi. Donc, pour moi, je la trouvais très crédible, surtout pour ma série. C'était surtout ça, en fait. Je ne sais pas si les personnages qu'elle a fait auraient pu évoluer comme ça, mais en tout cas, je trouvais...
On peut l'imaginer.
Oui, c'est possible. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une actrice complètement cohérente par rapport à sa vie, sa carrière, et j'y croyais, quoi.
Parce que votre Nona a sûrement connu aussi 68 et,
oui,
et les
sûr,
années qui ont suivi cette libération voilà, sexuelle-là. Ouais. L'allaitement forcé de forcé et érotique de Pierrot par la jeune mère qu'incarne Brigitte Fossé, Muriel Joudet, sorte de madone coincée dans un wagon dans ce film, en route pour aller rejoindre son jeune mari militaire en permission. Cette scène, elle est extrêmement marquante, voire choquante quand même aujourd'hui en 2023. Hein.
Moi je pense que c'est des scènes comme ça qu'on demande au cinéma en fait. Ce qui fait que vraiment c'est un grand film, c'est qu'il n'est, il est toujours deux choses à la fois. Un peu comme ce duo, c'est-à-dire il est misogyne et féministe, il est violent et il est extrêmement tendre. Et à chaque fois, une qualité en rattrape une autre. Dès qu'on commence à trouver qu'il tombe parfois dans la mièvrerie, hop, la violence revient. Dès qu'il y a de la violence, hop, la tendresse revient. Et pour moi, cette scène, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est un viol. Et en même temps, il finit quand même, oui, sur un plan de Madone, sur un petit garçon, sur quelque chose d'extrêmement tendre entre les deux. Et je pense que c'est la force du film, en fait, de commencer une scène sur une tonalité et de la finir sur une autre tonalité. Et c'est trop de choses à la fois. Cette scène, c'est à la fois extrêmement violent, c'est à la fois excitant, je pense, pour plein de gens. C'est à la fois extrêmement tendre. Et le fait de ne pas réussir à faire le tri de ce qu'on pense de cette scène fait sa force.
Oui, ça c'est je suis complètement d'accord.
Et ça participe au tempo du film, hein, extrêmement rythmé, très chapitré aussi.
Et puis ça nous fait voyager nous-mêmes dans notre tête, en fait. On se dit, mais qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que c'est ça que je ressens ? Est-ce que c'est ça que je ressens ? Et on est surpris soi-même par ses propres émotions. Et c'est quand même magnifique dans un film d'être surpris par son émotion.
Je veux bien qu'on termine juste sur les femmes, sur Blier, les valseuses et les femmes, parce qu'on a évoqué Miu Miu en sorte de baby doll, Jeanne Moreau en ange noir, en Brigitte Fossé en Madone, et on n'a pas encore parlé d'Isabelle Huppert, qui arrive sur la toute fin du film. Elles sont toutes les deux, Miu Miu, Isabelle Huppert à l'arrière de la voiture, et vous vous souvenez de cette scène, hein, parce que dans ce film, Isabelle Huppert, c'est la gamine de 16 ans avec avec son t-shirt Mickey qui se rebelle, qui quitte la table de camping où elle déjeune avec ses parents, qui traite son père de vieux con et se barre avec le trio, qui va l'initier au sexe. « T'as quel âge ?» lui dit Miu Miu. « 16 ans. T'as déjà baisé ?»« Non, » répond la jeune fille, Jacqueline. « Oh là là, c'est pas vrai, » répond Miu Miu, « ma pauvre petite chérie. »« Vous vous rendez compte ?» elle s'adresse aux deux garçons. « On ne peut pas la laisser partir comme ça. » Et donc là va se passer cette scène de dépucelage, d'initiation sexuelle, voire érotique, avec Isabelle Huppert. Muriel Joudet, vous qui avez signé un livre en 2018 sur Huppert, justement, Vivre ne nous regarde pas. Qu'est-ce que ce rôle de Jacqueline a incarné, représenté pour elle? Qu'est-ce qu'il nous dit de la future grande comédienne qu'on connaît, qu'elle va devenir?
Ce qui est assez génial d'avoir, même cette très brève apparition qu'on pourrait croire trop brève pour en dire quelque chose, je pense que ce qui est posé là dans le film, c'est en fait un motif qui est central pour les valseuses et aussi pour la carrière du père, c'est-à-dire la question de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour défaire l'ennui, en fait. Et Huppert, ça va être sa grande question, ça va être je me fais tellement chier en France, comme c'est vraiment le sujet du film, on se fait tellement chier en France qu'à un moment, c'est ce qu'ils disent hein, tout le temps, j'ai voulu tuer ce dimanche après-midi. Alors, je pense que vraiment, l'ennui comme affect suffisamment fort pour que on finisse par tout exploser, on peut voir les valseuses comme ça, et Huppert, ça va être central. Et en plus de ça, l'intégrité physique de Huppert qui est violée est quelque chose qui est central dans sa filmographie. Je cite souvent cette phrase de Philippe Bouvard qui a dit d'Huppert en 78, vous êtes l'actrice la plus violée du cinéma français. Et c'est vrai que dans les années 70, je pense que c'est quelque chose. Elle est dans Dupont-la-Joie, dans La Porte du Paradis, dans La Pianiste. Il y a comme ça plein de.
J'avais pas fait gaffe à ça, mais c'est fou.
Elle a un rapport à la violence de son pays, à la violence française, qui est vraiment un rapport d'amant, quoi. La violence française s'abat toujours sur elle. Et cet ennui, moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est ce que je trouve le plus beau dans Les Valseuses, c'est ça, c'est la France, pays de l'ennui.
Mais c'est un des thèmes principaux de Blier, de toute façon, un buffet froid, c'est que de l'ennui. Il s'ennuie dans les tours, dans Beau-Père. Enfin, c'est un des thèmes importants chez Blier. Et c'est cette envie d'espace, et de partir. Et c'est dans beaucoup de films. Hein, donc,
De prendre au sérieux, en fait, d'en faire un affect suffisamment sérieux et central dans nos vies, mais même en termes d'un point de vue presque politique. Enfin, on se fait chier, en fait, tous.
Les Valseuses, un film provoquant, un film qui a changé sûrement des regards et des mentalités au moment de sa sortie, dont on peut reparler aujourd'hui avec nos yeux de 2023. C'est ce qu'on fait avec nos trois invités, la réalisatrice Valérie Donzelli, le réalisateur et directeur de collection. Il a notamment pensé celle sur le cinéma des années 70 pour Studio Canal, Jérôme Ouibon, et Muriel Joudet, critique de cinéma, autrice aussi d'un livre sur Isabelle Huppert et d'un autre sur la seconde femme, ce que les actrices font à la vieillesse. Joie et bonheur de vous avoir aujourd'hui.
On n'est pas bien là, hein ?
France Culture. Les films qui ont changé le monde.
La merde. Tu vois ?
te nous fait pas chier. On se contente de jouer ça.
Olivia Gesbert.
À quoi ressemble la France cinéphile et cinématographique post-68, Jérôme Wibon? Ce film, écrit et tourné par Blier, l'a-t-il été en réaction à un certain conformisme cinématographique, à un certain cinéma dit bourgeois?
Oui, il y a de ça. Bertrand Blier a souvent présenté le film comme une attaque à main armée contre la France pompidolienne. Ce qui est le cas, vraiment. Le film sort en mars 1974, donc 2 mois avant l'élection de Giscard. Et Blier, en fait, tout en aimant le cinéma, par exemple, de Claude Sauté, il en avait marre que les héros soient toujours au volant d'une Alfa Romeo rouge et pas des loubards planqués dans une France abandonnée et paumée. Et donc c'est en ça qu'il voulait faire les valseuses, montrer une autre France, et la jeunesse aussi, qui était complètement paumée, même si post-68, le cinéma français montre beaucoup de choses de la société. C'est un cinéma très engagé, hein, donc tous les films sont politiques, même Gérard Horry fait Rabbi Jacob, alors que c'est pas un cinéaste très qui va dans ce style-là. Donc voilà, il y a vraiment une mouvance et des films provocateurs, on l'a dit, à La Grande Bouffe l'année d'avant.
Mais c'est vrai qu'en voyant ce film, on se demande si ça ressemblait à ça, les relations hommes-femmes au début des années 70. Côté sexe, en tout cas, c'est un film post-68 et antécida, c'est ce que raconte Gérard Depardieu en 94.
Il reste ce qu'on recherche toujours, quoi, qu'est la fraîcheur. Et puis on a fait les valseuses et avec Patrick, Miu Miu, et puis ce style de road movie qui était particulier. Enfin, c'est surtout ce qu'il y avait de fort dans les valseuses, c'était la liberté de ces gens-là à cette époque, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'avec le sida et les choses, on peut plus aller prendre 3 jeunes comme ça, puis aller baiser à la France entière, hein, aller chercher des réservoirs de cul, comme dans les valseuses, on faisait la sortie des prisons des femmes qui n'avaient pas vu un homme depuis longtemps. Donc maintenant, c'est vrai que c'est difficile.
C'est vrai qu'on est dans cette entre-deux des années 70, hein, post-68, avant les années 80, Valérie Donzelli, est-ce que ça offre aussi cette liberté au cinéma, cette possibilité d'être transgressif?
Oui, enfin, j'ai l'impression que le cinéma, quelle que soit son époque, raconte des choses. Enfin, Cyril Collard, il avait fait un film, voilà, sur la séropositivité, enfin, sur son histoire d'amour, voilà, Les Nuits Fauves, sur son histoire d'amour, alors qu'il était séropositif, avec une jeune femme qui tombait amoureuse de lui, enfin.
Et ça, c'est la France des années 80.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que chaque époque, en fait, a ses films subversifs, a ses films, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, le cinéma, c'est l'histoire aussi que ça raconte. Je veux dire, on fait des films, aujourd'hui, les films qu'on fait aujourd'hui en 2023, c'est pas les mêmes que, parce que l'histoire évolue, et voilà, et c'est ça qui est beau, donc c'est pas, enfin, j'ai pas forcément bien compris la question, mais en tout cas, c'est pas moins bien ou moins intéressant. Je pense qu'on peut faire des choses intéressantes à toute époque et des choses subversives à toute époque. C'est juste qu'elles se font dans un autre contexte historique et sociologique.
À sa sortie, le film sera quand même un énorme succès public, près de 6 millions de spectateurs, et un film qui a pris la place qu'on lui connaît par la suite dans l'histoire du cinéma. Est-ce que ce film est en phase avec son époque? Les valseuses répondaient à un besoin, selon Patrick Devers.
Je pense même que même les scénarios eux-mêmes sont le fait d'un besoin populaire. Je pense que les écrivains, les cinéastes sont des gens qui font partie du peuple, qui sentent tout d'un coup un besoin, qui sentent le besoin comme un artiste, un peintre. Oui. Je crois que le cinéma et l'art en général est toujours un peu en retard sur un besoin populaire. Moi, je crois à ça. Et je crois que, en effet, quand les valseuses sont arrivées, ça a tombé. On a eu vraiment beaucoup de chance parce que c'est tombé juste à un moment où une nouvelle génération ne pouvait pas s'identifier à d'autres acteurs qui n'étaient plus de leur âge. Il y avait effectivement besoin de, voilà. Donc c'est l'air du temps. C'est mais évidemment, une fois qu'on tient, faut pas lâcher.
Jérôme Wibon, Muriel Joudet, c'est vrai que c'est un film qui raconte aussi deux mondes, deux France, celle de la petite bourgeoisie et celle des classes populaires, ou plutôt des marginaux, parce qu'on ne sait pas très bien d'où ils viennent tous les deux. Hein. Ils parlent bien quand même aussi, le personnage de Jean-Claude. Il a ce phrasé assez travaillé, assez ciselé, tout en étant assez cru. On ne sait pas de quelle France ils sont originaires, l'un et l'autre. Ils sont en vadrouille, mais...
Ça rend le film abstrait, et du coup intemporel.
C'est pas un film social.
C'est la France, voilà. Ouais. Mais juste pour réagir peut-être sur le côté féministe, moi je trouve que c'est vraiment l'anti-Emmanuel, c'est-à-dire sur le rapport au sexe, qui est le côté « ah, on m'effleure, je jouis », enfin le côté complètement débile d'Emmanuel, récit initiatique, déjà là c'est les hommes qui sont initiés par les femmes. Et puis surtout, ce que je trouve très très beau dans le film sur la sexualité, c'est qu'il montre que c'est angoissant, en fait. Toutes les scènes de cul sont angoissantes. Et ça, je trouve que c'est d'une modernité folle, de montrer que c'est angoissant pour les femmes, c'est angoissant pour les hommes, ça jouit pas, ça marche pas, elle est frigide, enfin, tout est très 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 angoissant. À ce titre-là, c'est le contre-champ pour moi d'Emmanuel, quoi.
Ouais, et puis c'est angoissant et puis c'est cru. Et pour revenir sur ce que vous dites par rapport à eux, quand même, on a des bribes d'informations. On apprend qu'il y en a un qui est quand même né de mère inconnue. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on sent que c'est un peu, on sent que c'est un peu des enfants délaissés, quoi. Et puis quand ils sont à l'hôtel avec Jeanne Moreau, c'est elle qui leur explique comment remplir les formulaires. Ils savent pas. C'est marrant parce que c'est elle qui sort de prison, qui est très chic comme ça, qui fait presque la maîtresse d'école, qui les redirige. Donc on voit bien que c'est des enfants qui n'ont pas été très aimés quand même.
Et c'est un univers un peu très loin de l'univers de Bertrand Blier, hein, qui lui a été élevé dans le 16e arrondissement.
Bah, évidemment.
Il disait j'étais élevé entre Roland-Garros et la Suisse. Donc il avait, quand il écrit son roman, parce que c'est un roman, là, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est un roman, si on l'a dit, voilà, il a peur de ne pas être naturaliste. Mais il se base sur le documentaire qu'il a fait, Hitler connaît pas.
Qui était son premier film.
Voilà, c'est le prolongement de ça. Il a entendu des choses incroyables, de faits divers, quand il préparait ce documentaire, et qu'il retranscrit ici, quoi. Donc, il est très juste, je pense, sur la société de l'époque.
Oui, mais je pense que ce qui en fait la beauté du film, c'est qu'il n'a pas cherché, justement, c'est parce qu'il n'est pas issu de ça. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très, de l'ordre de la fiction pure. Enfin, c'est vraiment un truc aussi d'imagination. Il invente un monde est bien sûr inspiré de l'époque, etc. Ouais. Mais avec des héros qui sortent de sa tête.
Il apporte de la poésie. Hein.
Il apporte une poésie dingue, il apporte de la tendresse, enfin, une vision des choses qui n'est pas du tout forcément réaliste, quoi. Et c'est ça qui est beau dans le film, en fait.
C'est un grand succès, et pourtant, la critique est un peu frileuse quand même. Au moment où le film sort, honteux, immoral, entendra-t-on. Vous disiez, le film n'a pas été censuré, mais il y aura quand même un accueil très mitigé de la critique qui crie au scandale. Alors, Félicie Faugère a retrouvé quand même la parole d'un critique du Masque et la Plume, Gilles Jacob, qui est plutôt favorable au film, qui le défend même assez bien, et qui est contre l'avis de ses camarades du Masque à l'époque. Il prend la défense de Bertrand Blier.
Bertrand Blier, pour son troisième film, a apporté quelque chose, et je trouve que c'est pas tellement fréquent dans le cinéma français qu'on apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Une vitesse comme on en voit peu. Il a pris son roman et toutes les séquences, qui sont toutes les parties de son roman, il les coupe aux trois quarts. Il les coupe aux trois quarts, laissant au spectateur le soin de continuer la fin de la séquence tout seul. C'est-à-dire que d'une part, ça donne une vitesse considérable au film, et deuxièmement, ça donne un respect du spectateur qui n'est pas toujours pratiqué par les metteurs en scène. Il est bien évident que si on rencontrait des êtres comme ceux qui nous sont montrés là dans la vie, on aurait en effet l'envie soit de les gifler, soit de leur tourner le dos.
Malheureusement, on en rencontre, mon cher ami.
C'est le spectacle, malheureusement, il s'agit là d'un spectacle. Alors, reprochez à ce garçon-là d'avoir envisagé, en effet, ces petits voyous, ces petits blousons noirs de banlieue, avec une certaine, non pas tendresse, mais indulgence. Mais c'est vrai. Mais il y a d'autres personnages dans le film qui sont, eux, traités plus sévèrement. Robert parlait de vieillards, etc. Mais il y a plusieurs autres personnages. En fait, ce qui se passe dans ce film, c'est que, et c'est probablement ce qui vous agace un peu, c'est qu'il y a une verve, une vitalité, un sens du picaresque, qui, finalement, le rend un spectacle très attrayant.
Oui, parce que c'est les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que Bertrand Blier, dans ce film, ne fait que montrer, ou est-ce qu'il excuse, est-ce qu'il justifie le comportement de ces deux voyous, de ces deux blousons noirs, comme le dit aussi l'autre critique du Masque ? Tendresse, indulgence, comment vous le percevez? Où est l'intention? Où est le réalisateur? Le point de vue du réalisateur dans ce film?
Je pense qu'il les trouve quand même très sympathiques. Pour une raison très simple, c'est qu'il a changé la fin de son film. Au départ, il récupère cette déesse qu'ils ont trafiquée au début. C'est la même déesse qui trafique. Et normalement, il devait finir dans le ravin.
Il a fait ça pour les Américains qui voulaient acheter le film.
C'est ça, les Américains, un Américain colombien voit le film en disant, en sortant du film, c'est super, mais la fin, c'est pas possible, parce que ça a été mixé, monté avec, ils vont dans le ravin. Et donc, ce distributeur américain leur dit, mais il faut couper, parce qu'ils sont trop sympas, on ne veut pas qu'ils meurent, en fait. Et Blier est d'accord, en fait. Donc, il échange ça. Et je pense que ça change complètement le film, parce que sinon, on aurait eu un côté un peu moraliste.
Et dans le roman, il meurt à la fin.
Et je trouve que là, voilà, il rentre dans le tunnel avec la voiture, la musique de Grappelli, qui est hyper optimiste et qui est gay, et voilà, ils vont peut-être pas aller très très loin encore avant de se faire choper par la police, mais en fait, ils continuent, quoi. On a envie qu'ils continuent.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Muriel, c'est que le film, il est toujours à un endroit et à un autre, quoi. Et donc, eux, à la fois, on les déteste et on les aime. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est pas du tout manichéen, pour le coup, quoi. C'est vraiment... Et donc, je comprends que... Je pense qu'en fait, il est à tous les endroits, Blier. Enfin, quand il fait son film, il est vraiment honnête, quoi. Il ose dire des choses qui sont dérangeantes, il ose dire des choses qui sont émouvantes, il ose tout, en fait. Il se cache pas du tout en montrant une espèce de violence et en disant débrouillez-vous avec ça, comme peuvent faire certains metteurs en scène. Et c'est insupportable. Je trouve qu'il assume complètement, il est à tous les endroits dans son film, quoi. Et c'est ça qui est beau, en fait. On est aussi tenu par son regard.
J'insiste quand même, un peu sur cette répartie du critique qui dit, malheureusement, on en rencontre des voyous comme ça. Dans la vraie vie, on en rencontre. Oui, ce sont pas que des sujets de cinéma. Qu'est-ce qu'il montre, en fait, Blier, qu'on a peu l'habitude de voir, ou pas tant que ça, de cette France-là, à ce moment-là, avec ce film Les Valseuses?
Il montre une France désenchantée. Enfin, même s'il y a eu mai 68, là, la jeunesse, elle est quand même, elle attend encore qu'il se passe des choses. En 74, on n'a pas encore la majorité à 18 ans. La loi sur l'avortement, c'est 75, je crois. Il y a quand même, c'est pas encore, tout n'est pas encore fait pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Donc, je pense qu'il est vraiment, témoin de ça, en fait.
Il y a aussi, je pense, la classe sociale. Ça, c'est
bah oui, c'est moment, des marginaux.
C'est vraiment le... J'ai l'impression que c'est la suite de La Grande Bouffe, au sens où la Grande Bouffe, c'est la mise à mort de la bourgeoisie, qu'on peut laisser entrer les monstres prolétaires. Et ça, c'est et d'ailleurs, Depardieu va être un corps prolo pendant longtemps. Huppert aussi, ça va être une prolo dans Violette Nausière. Donc, c'est des nouveaux corps, et ça fait et donc des nouveaux acteurs aussi, une nouvelle génération d'acteurs qui jouent d'une manière différente. Donc, pour moi, ça se joue peut-être sur un déplacement sur la classe sociale qui met toujours la grande question du cinéma français. Est-ce qu'il est pas trop bourgeois? Est-ce que quand il film des pauvres, est-ce que c'est pas justement un regard de bourgeois sur ces pauvres? Et justement, ce que dit Valérie Donzelli, c'est le fait que le film soit partout fait que il s'excuse jamais de filmer une autre classe sociale que la sienne. C'est ça qui est très beau, c'est qu'il enjambe sa classe sociale d'une manière avec vivacité et sans s'excuser, et il projette ce qu'il pense de la France dans des personnages qui ne lui ressemblent pas du tout, et il s'excuse pas de le faire, et il va pas sociologiser ou surtout ces personnages.
Et c'est ça qui est beau.
Ils sont jamais pris dans le regard des institutions.
Ils sont jamais inquiétés, en plus, vraiment, par la police.
C'est ça, il n'y a pas...
Il n'y a pas la famille,
il n'y a pas la police, il n'y a pas... voilà, tout ce qu'on voit habituellement dans le cinéma français, le côté, dès qu'on filme des gens à problème, ça va être « Ah, bah t'es au commissariat, ah, bah il y a la DAS », tout ça disparaît, en fait. Et ils sont enfin libérés du poids, du regard institutionnel, quoi.
Oui, parce qu'ils appartiennent à l'imaginaire de Blier. Enfin, vraiment, moi, c'est ça que je trouve magnifique dans le film, c'est que c'est sa vision à lui, et c'est son geste artistique, quoi, avec... toutes les controverses qu'on peut y voir, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Et puis, il y a cette fameuse phrase, cette réplique de Depardieu, pas d'erreur possible, on est bien en France, avec le vin, la potée, le saucisson, les nappes à carreaux, et puis cette France qui est, une partie de cette France qui est au balcon dans cette scène de l'immeuble, et qui assiste à la joute qui oppose les deux voyous aux riches proprios de la voiture, aux tenanciers, voire thénardiers du salon de coiffure. On est presque dans cette idée du pain et des jeux. Je voulais juste terminer par un dernier extrait, cette langue de Blier si particulière, des répliques cultes à l'image de la première et dernière phrase du film, à l'image de la dernière phrase du film, de la scène finale, et maintenant, où on va, maintenant, on l'écoute.
maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Y'a jamais de vraie raison de se biner. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Tu te sens pas en joie?
On est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Pas bien là, finalement, c'est la question se pose aussi pour nous. Et vous, vous étiez bien ou pas la première fois que vous avez vu ce film? Est-ce que vous vous souvenez de vos, de votre ressenti, de votre expérience de spectateur, Valérie Donzelli?
Moi, je me souviens plus exactement quand je l'ai vu, mais je me souviens que j'étais assez jeune. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'était justement la représentation de la sexualité au cinéma, différente de ce qu'on voyait d'habitude. Un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, Muriel, sur le côté anti-Emmanuel, quoi. C'est-à-dire, une femme est effleurée, d'un coup elle jouit et tout ça. Et là, on a une problématique, une femme qui s'en fout, qui jouit pas, en fait. Et ça, ça m'a vachement interpellée. Et qui prend son pied après avec un parfait inconnu, celle qui a tout fait, etc. Et ce truc-là m'est resté, et je m'en suis resservie un peu dans La Reine des Pommes, avec Adèle qui... jouissait avec un homme qu'elle trouvait pas du tout désirable, et pourtant c'était totalement incongru pour elle, quoi.
Muriel Joudet.
Alors je sais plus quand j'ai vu le film, mais je sais que j'avais pas forcément très envie de le voir parce que j'avais l'impression de savoir déjà ce qu'était le film. Ça nous fait ça avec les films cultes, c'est ok, on a soupé des répliques cultes du film. Ce côté culte fait que je l'ai vu, je pense, très tardivement, mais que, voilà, en fait, un film, ce truc film culte, je trouve, pèse beaucoup sur les valseuses. Tant et si bien que moi, j'ai des amis qui sont extrêmement cinéphiles et qui ne prennent pas la peine de voir le film. Parce
que vous l'avez jamais vu, le film.
Pardon?
Vous l'avez jamais vu, ce
non,
film.
Non,
c'est ça.
Je fais semblant depuis tout à l'heure. Mais voilà, on a presque l'impression qu'on peut se passer de le voir. Je sais pas si vous.
Mais là, vous dites. À ceux qui nous écoutent, regardez-le, ce film,
oui,
si vous ne l'avez pas déjà vu.
C'est comme les classiques, on croit qu'on a lu Les Misérables, et puis quand on
lit,
on
se dit, ah
oui,
d'accord.
Et il y a une raison au côté culte, mais qui, voilà, le film ne ressemble pas à l'image qu'on s'en fait.
Jérôme Ouibo, on termine avec vous.
Oui, je crois que j'avais déjà vu Buffet froid, donc je connaissais la verve, les dialogues de Blier, et j'ai dû le voir vers 18-19 ans à la télévision, Les Valseuses, et il y avait encore un grand parfum de scandale. Le film, quand il passait à la télé, ce qui était assez rare, était vraiment le film scandaleux. Moi, j'ai souvenir d'avoir beaucoup ri, d'avoir vu ça comme une comédie, ce qui est le cas surtout au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je le revois, je pense plutôt aux scènes avec Jeanne Moreau. Enfin, voilà, j'ai un autre regard sur ce film, moins manichéen. Je pense clairement qu'à la première découverte.
Depardieu, Devers sont arrivés comme ça et avec, comment dire, même dans leur éducation, il y avait une sorte de liberté.
Le clin d'œil du comédien-acteur André Dussolier pour terminer ce nouveau numéro des 10 films qui ont changé le monde, que nous avons retenu pour vous cet été. Nous, c'est Sophie-Catherine Gallet à la programmation et à la préparation. C'est Félicie Faugère à la réalisation. Et c'est aujourd'hui Olivier Arnay à la technique. Merci beaucoup à nos trois invités d'être venus parler de ce film avec nous. Valérie Donzelli, Jérôme Ouibon et Muriel Joudet, merci à tous les trois. Vous pouvez réécouter cette émission pendant longtemps, longtemps, en vous abondant au fil de nos podcasts. Merci.